Alexandre Dumas, Joseph Balsamo, tome 1er, introduction. Le Montonnerre, celui qui est L.P.D. Sur la rive gauche du Rhin, à quelques lieues de la ville impériale de Worms, vers l'endroit où prend sa source la petite rivière de Seltz, commencent les premiers chaînons de plusieurs montagnes dont les croupes hérissées paraissent s'enfuir vers le nord comme un troupeau de buffles effrayés qui disparaîtraient dans la brume. Ces montagnes qui, dès leur talus, dominent déjà un pays à peu près désert et qui semblent former un cortège à la plus haute d'entre elles, portent chacune un nom expressif qui désigne une forme ou rappelle une tradition. L'une est la chaise du roi, l'autre la pierre des églantiers, celle-ci le roc des faucons, celle-là la crête du serpent. La plus élevée de toutes, celle qui s'élance le plus haut vers le ciel, saignant son front granitique d'une couronne de ruines, est le mont Tonnerre. Quand le soir épaissit l'ombre des chênes, quand les derniers rayons du soleil viennent dorer en mourant les hauts pitons de cette famille de géants, on dirait alors que le silence descend peu à peu de ces sublimes degrés du ciel jusqu'à la plaine et qu'un bras invisible et puissant développe de leurs flancs pour l'étendre sur le monde fatigué par les bruits et les travaux de la journée, ce long voile bleuâtre au fond duquel scintillent les étoiles. Alors tout passe insensiblement de la veille au sommeil, tout s'endort sur la terre et dans l'air. Seule, au milieu de ce silence, la petite rivière dont nous avons parlé, le Selsbach, comme on l'appelle dans le pays, poursuit son cours mystérieux sous les sapins de la rive. Et quoique ni jour ni nuit de l'arrête, car il faut qu'elle se jette dans le Rhin, qui est son éternité à elle, quoique rien ne l'arrête, disons-nous, le sable de son lit est si frais, ses roseaux sont si flexibles, ses roches si bien ouatées de mousse et de saxifrage que pas un de ses flots ne bruit de Morsheim où elle commence jusqu'à Frivenheim où elle finit. Un peu au-dessus de sa source, entre Albisheim et Kirchheim-Poland, une route sinueuse creusée entre deux parois abruptes et sillonnée de profondes ornières conduit à Dannenfels. Au-delà de Dannenfels, la route devient un sentier, puis le sentier lui-même diminue, s'efface, se perd, et l'œil cherche en vain autre chose sur le sol que la pente immense du mont Tonnerre, dont le mystérieux sommet, visité souvent par le feu du Seigneur qui lui a donné son nom, se dérobe entièrement derrière une ceinture d'arbres verts comme derrière un mur impénétrable. En effet, une fois arrivé sous ces arbres touffus comme les chênes de l'antique Dodone, le voyageur peut continuer son chemin sans être aperçu de la plaine, même en plein jour, et son cheval fût-il plus ruisselant de grelots qu'une mule espagnole, on n'entendra point le bruit de ses grelots. Fût-il caparaçonné de velours et d'or comme un cheval d'empereur, pas un rayon d'or ou de pourpre ne percera le feuillage tant l'épaisseur de la forêt étouffe le bruit, tant l'obscurité de son ombre éteint les couleurs. Aujourd'hui encore que les montagnes les plus élevées sont devenues de simples observatoires, aujourd'hui encore que les légendes les plus poétiquement terribles n'éveillent qu'un sourire de doute sur les lèvres du voyageur, aujourd'hui encore cette solitude effraie et rend si vénérable cette partie de la contrée que quelques maisons de chétive apparence, sentinelles perdues des villages voisins, ont seules apparu à distance de cette ceinture magique pour témoigner de la présence de l'homme dans ce pays. Ceux qui habitent ces maisons égarées dans la solitude sont des meuniers qui laissent gaiement la rivière broyer leur blé et ils vont porter la farine à Rockenhausen et à Alzey, ou des bergers qui, en menant paître leurs troupeaux dans la montagne, tressaillent parfois, eux et leurs chiens, au bruit de quelques sapins séculaires qui tombent de vieillesse dans les profondeurs inconnues de la forêt. Car les souvenirs du pays sont lugubres, nous l'avons déjà dit, et le sentier qui se perd au-delà de Dannenfels, au milieu des bruyères de la montagne, n'a pas toujours, disent les plus braves, conduit d'honnêtes chrétiens au port de leur salut. Peut-être même quelqu'un d'entre ses habitants d'aujourd'hui a-t-il entendu raconter autrefois à son père ou à son aïeul ce que nous allons essayer de raconter nous-mêmes aujourd'hui. Le 6 mai 1770, à l'heure où les eaux du grand fleuve se teignent d'un reflet blanc irisé de rose, c'est-à-dire au moment où, pour tout le Ringhau, le soleil descend derrière l'aiguille de la cathédrale de Strasbourg qui le coupe en deux hémisphères de feu, un homme qui venait de Mayence après avoir traversé Alzey et Kirchheim-Poland apparut au-delà du village de Dannenfels, suivit le sentier tant que le sentier fut visible, puis lorsque toute trace de chemin fut effacée, descendant de son cheval et le prenant par la bride, il alla sans hésitation l'attacher au premier sapin de la redoutable forêt. L'animal hennit avec inquiétude et la forêt sembla tressaillir à ce bruit inaccoutumé. « Bien, bien, murmura le voyageur, calme-toi, mon bon Djérit, voici 12 lieues faites et toi, du moins, tu es arrivé au terme de ta course. » Et le voyageur essaya de percer avec le regard la profondeur du feuillage, mais déjà les ombres étaient si opaques qu'on ne distinguait que des masses noires se découpant sur d'autres masses d'un noir plus épais. Cet examen infructueux achevé, le voyageur se retourna vers l'animal dont le nom arabe indiquait à la fois l'origine et la vélocité, et prenant à deux mains le bas de sa tête, il approcha de sa bouche ses naseaux fumants. « Adieu, mon brave cheval, dit-il, si je ne te retrouve pas, adieu. » Et ces mots furent accompagnés d'un regard rapide que le voyageur promena autour de lui comme s'il eût redouté ou désiré d'être entendu. Le cheval secoua sa crinière soyeuse, frappa du pied la terre et hennit de ce hennissement qu'il devait, dans le désert, faire entendre à l'approche du lion. Le voyageur, cette fois, se contenta de secouer la tête de haut en bas avec un sourire, comme s'il eût voulu dire « Ne te trompe pas, Djérit, le danger est bien ici. » Mais alors, décidé sans doute d'avance à ne pas combattre ce danger, l'aventureux inconnu tira de ses arçons de beaux pistolets au canon ciselé et à la crosse de vermeil, puis avec le tire-bourre de leurs baguettes, il les déchargea l'un après l'autre en extirpant la bourre et la balle, puis enfin il sema la poudre sur le gazon. Cette opération terminée, il remit les pistolets dans les fontes. Ce n'est pas tout. Le voyageur portait à sa ceinture une épée à poignée d'acier, il déboucla le ceinturon, le roula autour de l'épée, passa le tout sous la selle, l'assujettit avec l'étrier de façon que la pointe de l'épée correspondît à l'aine du cheval et la poignée à l'épaule. Enfin, ces formalités étranges accomplies, le voyageur secoua ses bottes poudreuses, ôta ses gants, fouilla dans ses poches, et ayant trouvé une paire de petits ciseaux et un canif à manche d'écaille, il les jeta l'un après l'autre par-dessus son épaule, sans même regarder où ils allaient tomber. Cela fait, après avoir passé une dernière fois la main sur la croupe de Djérit, après avoir respiré comme pour donner à sa poitrine tout le degré de dilatation qu'elle pouvait acquérir, le voyageur chercha inutilement un sentier quelconque et n'en trouvant point, il entra au hasard dans la forêt. C'est le moment, nous le croyons, de donner à nos lecteurs une idée exacte du voyageur que nous venons de faire apparaître à leurs yeux et qui est destiné à jouer un rôle important dans le cours de notre histoire. Celui qui, après être descendu de cheval, venait de s'aventurer si hardiment dans la forêt, paraissait être un homme de 30 à 32 ans, d'une taille au-dessus de la moyenne, mais si admirablement pris qu'on sentait circuler tout à la fois la force et l'adresse dans ses membres souples et nerveux. Il était vêtu d'une espèce de redingote de voyage de velours noir à boutonnière d'or. Les deux bouts d'une veste brodée apparaissaient au-dessous des derniers boutons de cette redingote et une culotte de peau collante dessinait des jambes qui eussent pu servir de modèle à un statuaire et dont l'on devinait la forme élégante à travers les bottes de cuir verni. Quant à son visage, qui avait toute la mobilité des types méridionaux, c'était un singulier mélange de force et de finesse. Son regard, qui pouvait exprimer tous les sentiments, semblait, lorsqu'il s'arrêtait sur quelqu'un, plonger dans celui sur lequel il s'arrêtait de rayons de lumière destinés à éclairer jusqu'à son âme. Ses joues brunes avaient été, cela se voyait tout d'abord, hâlées par les rayons d'un soleil plus brûlant que le nôtre. Enfin, une bouche grande mais belle de forme s'ouvrait pour laisser voir un double rang de dents magnifiques que la hâleur du teint faisait paraître plus blanche encore. Le pied était long mais fin, la main était petite mais nerveuse. À peine celui dont nous venons de tracer le portrait eut-il fait 10 pas au milieu des sapins qu'il entendit de rapides piétinements vers l'endroit où il avait laissé son cheval. Son premier mouvement, mouvement sur l'intention duquel il n'y avait point à se tromper, fut de retourner sur ses pas, mais il se retint. Cependant, ne pouvant résister au désir de savoir ce qu'était devenu Jerith, il se haussa sur la pointe des pieds, dardant son regard par une éclaircie. Entraîné par une main invisible qui avait dénoué sa bride, Jerith avait déjà disparu. Le front de l'inconnu se plissa légèrement et quelque chose comme un sourire crispa ses joues pleines et ses lèvres ciselées à fines arêtes. Puis il continua son chemin vers le centre de la forêt. Pendant quelques pas encore, le crépuscule extérieur pénétrant à travers les arbres guida sa marche. Mais bientôt, ce faible reflet venant à lui manquer, il se trouva dans une nuit tellement épaisse que, cessant de voir où il mettait le pied et craignant sans doute de s'égarer, il s'arrêta. « Je suis bien venu jusqu'à Dannenfels, dit-il tout haut, car de Mayence à Dannenfels, il y a une route. J'ai bien été de Dannenfels à la Bruyère Noire, parce que de Dannenfels à la Bruyère Noire, il y a un sentier. Je suis bien venu de la Bruyère Noire ici, quoiqu'il n'y eût ni route ni sentier, car j'apercevais la forêt, mais ici... Je suis forcé de m'arrêter, je n'y vois plus. » À peine ces mots étaient-ils prononcés dans un dialecte moitié français, moitié sicilien, qu'une lumière jaillit subitement à 50 pas à peu près du voyageur. « Merci, dit-il, maintenant que cette lumière marche, je la suivrai. » Aussitôt, la lumière marcha, sans oscillation, sans secousse, avançant d'un mouvement égal, comme glissent sur nos théâtres ces flammes fantastiques dont la marche est réglée par le machiniste et le metteur en scène. Le voyageur fit encore 100 pas à peu près, puis il crut entendre comme un souffle à son oreille. Il tressaillit. « Ne te retourne pas, dit une voix à droite, ou tu es mort. »« Bien, répondit sans sourciller l'impassible voyageur. « Ne parle pas, dit une voix à gauche, ou tu es mort. » Le voyageur s'inclina sans parler. « Mais si tu as peur, articula une troisième voix qui, pareille à celle du père d'Hamlet, semblait sortir des entrailles de la terre, si tu as peur, reprends le chemin de la plaine, cela signifiera que tu renonces et on te laissera retourner d'où tu viens. » Le voyageur se contenta de faire un geste de la main et continua sa route. La nuit était si sombre et la forêt si épaisse que, malgré la lueur qui le guidait, le voyageur n'avançait qu'en trébuchant. Durant 1 heure à peu près, la flamme marcha et le voyageur la suivit sans faire entendre un murmure, sans donner un signe de crainte. Tout à coup, elle disparut. Le voyageur était hors de la forêt. Il leva les yeux. À travers le sombre azur du ciel scintillaient quelques étoiles. Il continua de marcher en avant dans la direction où avait disparu la lumière, mais bientôt il vit surgir devant lui une ruine, spectre d'un vieux château. En même temps, son pied heurta des décombres. Aussitôt, un objet glacé se colla sur ses tempes et mura ses yeux. Dès lors, il ne vit plus, même les ténèbres. Un bandeau de linge mouillé emprisonnait sa tête. C'était chose convenue, sans doute, c'était au moins chose à laquelle il s'attendait, car il ne fit aucun effort pour enlever le bandeau. Seulement, il tendit silencieusement la main, comme fait un aveugle qui réclame un guide. Ce geste fut compris, car à l'instant même, une main froide, aride, osseuse, se cramponna au doigt du voyageur. Il reconnut que c'était la main décharnée d'un squelette, mais si cette main eût été douée de sentiments, elle eût, de son côté, reconnu que la sienne ne tremblait pas. Alors le voyageur se sentit rapidement entraîné pendant l'espace de 100 toises. Soudain, la main quitta la sienne, le bandeau s'envola de son front et l'inconnu s'arrêta. Il était arrivé au sommet du mont Tonnerre. au milieu d'une clairière formée par des bouleaux chauves de vieillesse, s'élevait le rez-de-chaussée d'un de ces châteaux en ruine que les seigneurs féodaux semèrent jadis dans l'Europe au retour des croisades. Les porches sculptés de fins ornements et dont chaque cavité, au lieu de la statue mutilée et précipitée au pied de la muraille, recélait une touffe de bruyère ou de fleurs sauvages, découpaient sur le ciel blafard leurs ogives dentelées par les éboulements. Le voyageur, en ouvrant les yeux, se trouva devant les marches humides et moussues du portique principal. Sur la première de ces marches se tenait debout le fantôme à la main osseuse qui l'avait mené jusque-là. Un long suaire l'enveloppait de la tête aux pieds. Sous les plis du linceul, ses orbites sans regard étincelaient. Sa main décharnée était étendue vers l'intérieur des ruines et semblait indiquer au voyageur, comme terme de sa route, une salle dont l'élévation au-dessus du sol cachait les parties inférieures, mais aux voûtes effondrées, de laquelle on voyait trembler une lumière sourde et mystérieuse. Le voyageur inclina sa tête en signe de consentement. Le fantôme monta lentement, un à un et sans bruit, les degrés, et s'enfonça dans les ruines. L'inconnu le suivait du même pas tranquille et solennel sur lequel il avait toujours réglé sa marche, franchit un à un à son tour les degrés qu'avait franchis le fantôme et entra. Derrière lui se referma aussi bruyamment qu'un mur vibrant d'airain la porte du porche principal. À l'entrée d'une salle circulaire vide, tendue de noir et éclairée par trois lampes aux reflets verdâtres, le fantôme s'était arrêté. À 10 pas de lui, le voyageur s'arrêta à son tour. « Ouvre les yeux !» dit le fantôme. « J'y vois !» répondit l'inconnu. Tirant alors avec un geste rapide et fier une épée à deux tranchants de son linceul, le fantôme frappa sur une colonne de bronze qui répondit au coup par un mugissement métallique. Aussitôt et tout autour de la salle, des dalles se soulevèrent et des fantômes sans nombre, pareils aux premiers, apparurent, armés chacun d'une épée à double tranchant et prirent place sur des gradins de même forme que la salle où se reflétait particulièrement la lueur verdâtre des trois lampes et où ils semblaient, confondus avec la pierre par leur froideur et leur immobilité, des statues sur leurs piédestaux. Chacune de ces statues humaines se détachait étrangement sur la draperie noire qui, comme nous l'avons dit, couvrait les murs. 7 sièges étaient placés en avant du premier degré. Sur ces sièges étaient assis 6 fantômes qui paraissaient les chefs. Un de ces sièges était vide. Celui qui était assis sur le siège du milieu se leva. « Combien sommes-nous ici, mes frères ? » demanda-t-il en se tournant du côté de l'assemblée. 300, répondirent les fantômes d'une seule et même voix qui tonna dans la salle, puis presque aussitôt alla se briser sur la tenture funéraire des murailles. 300, reprit le président, dont chacun représente 10 000 associés, 300 épées qui valent 3 millions de poignards. Puis, se retournant vers le voyageur, « Que désires-tu ? » lui demanda-t-il. « Voir la lumière, répondit celui-ci. Les sentiers qui mènent à la montagne de feu sont âpres et durs. Ne crains-tu pas de t'y engager ? Je ne crains rien. Une fois que tu auras fait encore un pas en avant, il ne te sera plus permis de retourner en arrière. Songe-y. Je ne m'arrêterai qu'en touchant le but. Es-tu prêt à le jurer ? Dictez-moi le serment et je le répéterai. » Le président leva la main et d'une voix lente et solennelle prononça les paroles suivantes. « Au nom du Fils crucifié, jurez de briser les liens charnels qui vous attachent encore à père, mère, frère, sœur, femme, parent ou ami, maîtresse, roi, bienfaiteur et à tout être quelconque à qui vous auriez promis foi, obéissance et service. » Le voyageur, d'une voix ferme, répéta les paroles qui venaient de lui être dictées par le président, qui, passant au 2e paragraphe du serment, reprit avec la même lenteur et la même solennité « De ce moment, vous êtes affranchis du prétendu serment fait à la patrie et aux lois. Jurez donc de révéler au nouveau chef ce que vous reconnaissez, ce que vous avez vu ou fait, lu ou entendu, appris ou deviné, et même de rechercher et d'épiller ce qui ne s'offrirait pas à vos yeux. » Le président se tut, et l'inconnu répéta les paroles qu'il venait d'entendre. « Honoré et respecter l'aqua tofana, reprit le président sans changer de ton, comme un moyen prompt, sûr et nécessaire de purger le globe par la mort ou l'hébétation de ceux qui cherchent à avilir la vérité ou à l'arracher de nos mains. Un écho n'eût pas plus fidèlement reproduit ces paroles que ne le fit l'inconnu. Le président reprit « Fouillez l'Espagne, fouillez Naples, fouillez toute terre maudite, fouillez la tentation de rien révéler de ce que vous allez voir et entendre, car le tonnerre n'est pas plus prompt à frapper que ne le sera à vous atteindre en quelque lieu que vous soyez, le couteau invisible et inévitable. Vivez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il fut impossible, malgré la menace que contenaient ces dernières lignes, de surprendre aucune émotion sur le visage de l'inconnu, qui prononça la fin du serment et l'invocation qui le suivit avec un accent aussi calme qu'il en avait prononcé le commencement. « Et maintenant, continua le président, saignez le front du récipiendaire avec la bandelette sacrée. » Deux fantômes s'approchèrent de l'inconnu qui inclina la tête. L'un d'eux lui appliqua sur le front un ruban aurore chargé de caractères argentés, entremêlé de la figure de Notre-Dame de Lorette. L'autre en noua derrière lui les deux bouts à la naissance du col. Puis ils s'écartèrent en laissant à nouveau l'inconnu seul. « Que demandes-tu ? » lui dit le président. « Trois choses, » répondit le récipiendaire. « Lesquelles ? » ?»« La main de fer, le glaive de feu, les balances de diamants. » »« Pourquoi désires-tu la main de fer ? » ?»« Pour étouffer la tyrannie. » »« Pourquoi désires-tu le glaive de feu ? » ?»« Pour chasser l'impur de la terre. » »« Pourquoi désires-tu les balances de diamants ? » ?»« Pour peser les destins de l'humanité. » Es-tu préparé pour les épreuves ? Le fort est préparé à tout. Les épreuves !» s'écrièrent plusieurs voix. « Retourne-toi, » dit le président. L'inconnu obéit et se trouva en face d'un homme pâle comme la mort, garrotté et bâillonné. « Que vois-tu ? » demanda le président. « Un criminel ou une victime ? » ?»« C'est un traître qui, après avoir fait le serment que tu as fait, a révélé le secret de l'ordre. » C'est un criminel, alors. Oui, quel châtiment a-t-il encouru ? La mort. Les 300 fantômes répétèrent « La mort !» Au même instant, le condamné, malgré des efforts surhumains, fut entraîné dans les profondeurs de la salle. Le voyageur le vit se débattre et se tordre aux mains de ses bourreaux. Il entendit sa voix sifflant à travers l'obstacle du bâillon. Un poignard étincela, reflétant comme un éclair la lueur des lampes, puis on entendit frapper un coup mat, et le bruit d'un corps tombant lourdement sur le sol retentit, sourd et funèbre. « Justice est faite !» dit l'inconnu, en se retournant vers le cercle effrayant dont les regards avides avaient, à travers leur suaire, dévoré ce spectacle. « Ainsi, dit le président, tu approuves l'exécution qui vient d'avoir lieu ?» « Oui, si celui qui vient d'être frappé fut véritablement coupable. Et tu boirais à la mort de tout homme qui, comme lui, trahirait les secrets de l'association sainte ? J'y boirais. Quelle que fût la boisson, quelle qu'elle fût. Apportez la coupe, » dit le président. L'un des deux bourreaux s'approcha alors du récipiendaire et lui présenta une liqueur rouge et tiède dans un crâne humain monté sur un pied de bronze. L'inconnu prit la coupe des mains du bourreau et la levant au-dessus de sa tête. « Je bois, dit-il, à la mort de tout homme qui trahira les secrets de l'association sainte. » Puis, abaissant la coupe à la hauteur de ses lèvres, il la vida jusqu'à la dernière goutte et la rendit froidement à celui qui la lui avait présentée. Un murmure d'étonnement courut par l'assemblée et les fantômes semblèrent se regarder entre eux à travers leur linceul. « C'est bien, » dit le président, « le pistolet !» Un fantôme s'approcha du président, tenant d'une main un pistolet et de l'autre une balle de plomb et une charge de poudre. À peine le récipiendaire daigna-t-il tourner les yeux de son côté. « Tu promets donc une obéissance passive à l'association sainte ?» demanda le président. « Oui. » « Même si cette obéissance devait s'exercer sur toi-même ?» « Celui qui entre ici n'est pas à lui, il est à tous. Ainsi, quelque ordre qu'il te soit donné par moi, tu obéiras ?
J'obéirai.
À l'instant même ?
À l'instant même.
Sans hésitation ?
Sans hésitation.
Prends ce pistolet et charge-le.
L'inconnu prit le pistolet, fit glisser la poudre dans le canon, l'assujettit avec une bourre, puis laissa tomber la balle, qu'il assura avec une seconde bourre, après quoi il amorça l'arme.
Tous les sombres habitants de l'étrange demeure le regardaient avec un morne silence qui n'était interrompu que par le bruit du vent se brisant aux angles des arceaux rompus.
« Le pistolet est chargé, » dit froidement l'inconnu.
« En es-tu sûr ? » demanda le président.
Un sourire passa sur les lèvres du récipiendaire qui tira la baguette et la laissa couler dans le canon de l'arme qu'elle dépassa de 2 pouces.
Le président s'inclina en signe qu'il était convaincu.
« Oui, dit-il, il est en effet chargé et bien chargé. »«
Que dois-je en faire ? » demanda l'inconnu.
« Arme-le. »
L'inconnu arma le pistolet et l'on entendit au milieu du profond silence qui accompagnait les intervalles du dialogue le craquement du chien.
« Maintenant, reprit le président, appuie la bouche du pistolet contre ton front. »
Le récipiendaire obéit sans hésiter.
Le silence s'étendit sur l'assemblée plus profond que jamais.
Les lampes semblèrent pâlir, ces fantômes étaient bien véritablement des fantômes car pas un n'avait d'haleine.
« Feu !» dit le président.
La détente partit, la pierre étincela sur la batterie, mais la poudre seule du bassinet prit feu et aucun bruit n'accompagna sa flamme éphémère. Un cri d'admiration s'échappa de presque toutes les poitrines et le président, par un mouvement instinctif, étendit la main vers l'inconnu. Mais 2 épreuves ne suffisaient point au plus difficile et quelques voix crièrent « Le poignard ! Le poignard !»«
Vous l'exigez ?» demanda le président.
« Oui, le poignard ! Le poignard !» reprirent les mêmes voix.
« Apportez donc le poignard !» dit le président.
« C'est inutile !» fit l'inconnu en secouant la tête d'un air de dédain.
« Comment inutile ? » s'écria l'assemblée.
« Oui, inutile, » reprit le récipiendaire d'une voix qui couvrait toutes les voix.
« Inutile, je vous le répète, car vous perdez un temps précieux. »«
Que dites-vous là ? » s'écria le président.
« Je dis que je sais tous vos secrets, que ces épreuves que vous me faites subir sont des jeux d'enfants, indignes d'occuper un instant des êtres sérieux. » Je dis que cet homme assassiné n'est point mort, je dis que ce sang que j'ai bu était du vin renfermé dans une outre aplatie sur sa poitrine et caché sous ses vêtements, je dis que la poudre et les balles de ce pistolet sont tombées dans la crosse au moment où, en armant le chien, j'ai fait jouer la bascule qui les engloutit.
Reprenez donc votre arme impuissante, bonne à effrayer des lâches.
Relève-toi donc, cadavre menteur, tu n'épouvanteras pas les forts.
Un cri terrible fit retentir les voûtes.
« Tu connais nos mystères ? » s'écria le président. « Tu es donc un voyant ou un traître ?»«
Qui es-tu ? » demandèrent ensemble 300 voix, en même temps que 20 épées étincelaient aux mains des fantômes les plus proches, et par un mouvement régulier, comme eût été celui d'une phalange exercée, venaient s'abaisser et se réunir sur la poitrine de l'inconnu. Mais lui, souriant, calme, relevant la tête en secouant sa chevelure sans poudre et retenue par le seul ruban qu'on avait noué autour de son front,
« Ego sum qui sum » dit-il,
« je suis celui qui est ». Puis il promena ses regards sur la muraille humaine qui l'entourait étroitement. À son regard dominateur, les épées s'abaissèrent par mouvements inégaux, selon que ceux que l'inconnu écrasait de ce regard cédaient instantanément à son influence ou essayaient de la combattre.
« Tu viens de prononcer une imprudente parole, dit le président, et sans doute tu ne l'as prononcée que parce que tu n'en connais point la portée. »
L'étranger secoua la tête en souriant. « J'ai répondu ce que je dois répondre, dit-il. »
« D'où viens-tu alors ?» demanda le président.
« Je viens du pays d'où vient la lumière. »«
Nos instructions annoncent cependant que tu viens de Suède. »«
Qui vient de Suède peut venir d'Orient, » reprit l'étranger.
« Une seconde fois, nous ne te connaissons pas. Qui es-tu ?»«
Qui je suis ?»«
Soit, reprit l'inconnu, je vous le dirai tout à l'heure, puisque vous feignez de ne me point comprendre. Mais auparavant, je veux vous dire qui vous êtes vous-même. »
Les fantômes tressaillirent et leurs glaives s'entrechoquèrent en passant de leur main gauche dans leur main droite et en se relevant à la hauteur de la poitrine de l'inconnu. « D'abord, reprit l'étranger en étendant la main vers le président, toi qui te crois un dieu qui n'est qu'un précurseur, toi le représentant des cercles suédois, je te dirai ton nom pour n'avoir point besoin de te dire celui des autres. Swedenborg, les anges qui causent familièrement avec toi ne t'ont pas révélé que celui que tu attendais s'était mis en chemin ?»«
C'est vrai, répondit le président en relevant son linceul, pour mieux voir celui qui parlait, ils me l'ont dit. »
Et celui qui relevait son linceul contre toutes les habitudes des rites de la société montrait en relevant le visage vénérable et la barbe blanchie d'un vieillard de 80 ans.
« Bien, reprit l'étranger, maintenant à ta gauche est le représentant du cercle anglais qui préside la loge de Calédonie. Salut, Milord. Si le sang de votre aïeul revit en vous, l'Angleterre peut espérer que la lumière éteinte se rallumera. »
Les épées s'abaissèrent, la colère commençait à faire place à l'étonnement.
« Ah, c'est vous, capitaine ?» continua l'inconnu en s'adressant au dernier chef placé à la gauche du président. « Dans quel port avez-vous laissé votre beau bâtiment, que vous aimez comme une maîtresse ? C'est une brave frégate, n'est-ce pas, que la Providence, et un nom qui portera bonheur à l'Amérique ?» Puis, se tournant vers celui qui se tenait à la droite du président, « À ton tour, dit-il, prophète de Zurich, voyons, regarde-moi en face, toi qui as poussé jusqu'à la divination la science physionomique, et dis tout haut si dans les lignes de mon visage tu ne reconnais pas le témoignage de ma mission. »
Celui auquel il s'adressait recula d'un pas.
« Allons, continua l'étranger en s'adressant à son voisin, allons, descendant de Pélage, il s'agit de chasser une seconde fois les Maures d'Espagne, ce sera chose facile si les Castillans n'ont point à tout jamais perdu l'épée du Cid. »
Le cinquième chef resta muet et immobile, on eût dit que la voix de l'inconnu l'avait changé en pierre.
« Et à moi, reprit le sixième chef, allant au-devant des paroles de l'inconnu, qui semblait l'oublier, à moi, n'as-tu rien à dire ?»«
Si fait, répondit le voyageur en fixant sur lui un de ces regards perçants qui fouillaient les cœurs.
« Si fait, j'ai à te dire ce que Jésus dit à Judas, je te le dirai tout à l'heure. »
Celui auquel il s'adressait devint plus pâle que son linceul, tandis qu'un murmure courant par toute l'assemblée semblait demander compte au récipiendaire de cette étrange accusation.
« Tu oublies le représentant de la France, dit le président. « Celui-là n'est point parmi nous, répondit l'étranger avec hauteur. Tu le sais bien, toi qui parles, puisque voilà son siège vide. Maintenant, rappelle-toi que les pièges font sourire celui qui voit dans les ténèbres, qui agit malgré les éléments et qui vit malgré la mort. »
« Tu es bien jeune, reprit le président, et tu parles avec l'autorité d'un dieu. Réfléchis bien à ton tour. L'audace n'étourdit que les hommes irrésolus ou ignorants. »
Un sourire de suprême dédain se dessina sur les lèvres de l'étranger.
« Vous êtes tous irrésolus, dit-il, puisque vous ne pouvez agir sur moi. Vous êtes tous ignorants, puisque vous ne savez pas qui je suis, tandis qu'au contraire, je sais, moi, qui vous êtes. » Donc je réussirai près de vous rien qu'avec de l'audace, mais à quoi sert l'audace à celui qui est tout-puissant ?
La preuve de cette puissance, dit le président, la preuve, donnez-nous-la.
Qui nous a convoqués ? Demanda l'inconnu, passant du rôle d'interrogé à celui d'interrogateur.
Le cercle suprême ?
Ce n'est pas sans but, dit l'étranger, en se retournant vers le président et vers les cinq chefs, que vous êtes venus, vous de Suède, vous de Londres, vous de New York, vous de Zurich, vous de Madrid, vous de Varsovie, vous tous enfin, continua-t-il en s'adressant à la foule des quatre parties du monde, pour vous réunir dans le sanctuaire de la foi terrible.
« Non, sans doute, répondit le président, nous venons au-devant de celui qui a fondé un empire mystérieux en Orient et qui a réuni les deux hémisphères dans une communauté de croyances qui a enlacé les mains fraternelles du genre humain.
Y a-t-il un signe certain auquel vous puissiez le reconnaître ?»«
Oui, dit le président, et Dieu a daigné me le dévoiler par l'intermédiaire de ses anges. »«
Vous le connaissez, ce signe, alors ?
Moi seul le connais.
Vous n'avez révélé ce signe à personne.
À personne au monde. Dites-le tout haut.
Le président hésita.
Dites, répéta l'étranger avec le ton du commandement. Dites, car le moment de la révélation est venu.
Il portera sur la poitrine, dit le chef suprême, une plaque de diamant, et sur cette plaque étincelleront les trois premières lettres d'une devise connue de lui seul.
Quelles sont ces trois lettres ?
L, P, D.
L'étranger écarta d'un mouvement rapide sa redingote et son gilet, et sur sa chemise de fine batiste apparut, resplendissante comme une étoile de flamme, la plaque de diamant sur laquelle flamboyaient les trois lettres de rubis.
« Lui !» s'écria le président épouvanté. « Serait-ce lui ?»«
Celui que le monde attend !» dirent avec anxiété les chefs.
« Le grand Kofte !» murmurèrent 300 voix.
« Eh bien, s'écria l'étranger avec l'accent du triomphe, me croirez-vous maintenant quand je vous répéterai pour la seconde fois, je suis celui qui est ?»«
Oui, » dirent les fantômes en se prosternant.
« Parlez, maître, » dirent le président et les cinq chefs, le front incliné vers la terre, « parlez et nous obéirons. » Il se fit un silence de quelques secondes pendant lequel l'inconnu parut recueillir toutes ses pensées. Puis, au bout d'un instant,
« Seigneur, dit-il, vous pouvez déposer les épées qui fatiguent inutilement vos bras et me prêter une oreille attentive, car vous aurez beaucoup à apprendre dans le peu de paroles que je vais vous adresser. »
L'attention redoubla. « La source des grands fleuves est presque toujours divine, c'est pour cela qu'elle est inconnue. Comme le Nil, comme le Gange, comme l'Amazone, je sais où je vais, mais j'ignore d'où je viens. » Tout ce que je me rappelle, c'est que le jour où les yeux de mon âme s'ouvrirent à la perception des objets extérieurs, je me trouvais dans Médine, la ville sainte, courant à travers les jardins du Mufti Salahim. C'était un respectable vieillard que j'aimais comme mon père, et qui cependant n'était point mon père, car s'il me regardait avec tendresse, il ne me parlait qu'avec respect. Trois fois par jour, il s'écartait pour laisser arriver jusqu'à moi un autre vieillard, dont je ne prononce le nom qu'avec une reconnaissance mêlée d'effroi. Ce vieillard respectable, auguste réceptacle de toutes les sciences humaines, instruit par les sept esprits supérieurs dans tout ce qu'apprennent les anges pour comprendre Dieu, s'appelle Altotas. Il fut mon gouverneur, il fut mon maître. Il est encore mon ami, ami vénérable, car il a deux fois l'âge du plus âgé d'entre vous. Ce langage solennel, ces gestes majestueux, cet accent onctueux et sévère à la fois, produisirent sur l'assemblée une de ces impressions qui se résolvent en longs frémissements d'anxiété. Le voyageur continua. Lorsque j'atteignis ma 15e année, j'étais déjà initié aux principaux mystères de la nature. Je savais la botanique, non pas cette science étroite que chaque savant circonscrit à l'étude du coin du monde qu'il habite, mais je connaissais les 60 000 familles de plantes qui végètent partout l'univers. Je savais, quand mon maître m'y forçait, en m'imposant les mains sur le front et en faisant descendre dans mes yeux fermés un rayon de lumière céleste, je savais, par ma contemplation presque surnaturelle, plonger mon regard sous le flot des mers et classer ces monstrueuses et indescriptibles végétations qui flottent et se balancent sourdement entre deux couches d'eau vaseuse et couvrent de leurs rameaux gigantesques le berceau de tous ces monstres hideux et presque sans forme que la vue de l'homme n'a jamais atteint et que Dieu doit avoir oublié depuis le jour où les anges rebelles forcèrent à les créer son pouvoir un instant vaincu. Je m'étais en outre adonné aux langues mortes et vivantes. Je connaissais tous les idiomes qui se parlent, depuis le détroit des Dardanelles jusqu'au détroit de Magellan. Je lisais ces mystérieux hiéroglyphes écrits sur ces livres de granit qu'on appelle les pyramides. J'embrassais toutes les connaissances humaines, depuis Sanconiaton jusqu'à Socrate, depuis Moïse jusqu'à Saint Jérôme, depuis Zoroastre jusqu'à Agrippa. J'avais étudié la médecine, non seulement dans Hippocrate, dans Galien, dans Averroès, mais encore avec ce grand maître qu'on appelle la nature.
J'avais surpris les secrets des coftes et des druses. J'avais recueilli les semences fatales et les semences heureuses. Je pouvais, quand le simoun et l'ouragan passaient sur ma tête, livrer à leur souffle des graines qui allaient porter loin de moi la mort ou la vie, selon que j'avais condamné ou béni la contrée vers laquelle je tournais mon regard courroucé ou souriant. Ce fut au milieu de ces études, de ces travaux, de ces voyages que j'atteignis ma 20e année. Un jour, mon maître vint me trouver dans la grotte de marbre où je me retirais pendant la grande chaleur du jour. Son visage était à la fois austère et souriant. Il tenait à la main un flacon. « Akarat, me dit-il, je t'ai toujours dit que rien ne naissait, que rien ne mourait dans le monde, que le berceau et le cercueil étaient frères. » Qu'il manquait seulement à l'homme, pour voir clair dans ses existences passées, cette lucidité qui le fera l'égal de Dieu, puisque, du jour où il aura acquis cette lucidité, il se sentira immortel comme Dieu. Eh bien, j'ai trouvé le breuvage qui dissipe les ténèbres en attendant que je trouve celui qui chasse la mort. À Karat, j'ai bu hier ce qui manque à ce flacon, bois le reste aujourd'hui. J'avais une grande confiance, j'avais une vénération suprême dans mon digne maître, et cependant ma main trembla en touchant le flacon que me présentait Altotas, comme la main d'Adam dut trembler en touchant la pomme que lui offrait Ève. « Bois, me dit-il en souriant. » Alors il m'imposa les mains sur la tête, comme il avait coutume de le faire lorsqu'il voulait, momentanément, me douer de la double vue. « Dors, me dit-il, et souviens-toi. » Je m'endormis aussitôt. Alors je rêvais que j'étais couché sur un bûcher de bois de santal et d'aloès. Un ange qui passait, portant de l'Orient à l'Occident la volonté du Seigneur, toucha mon bûcher du bout de l'aile et mon bûcher prit feu. Mais, chose étrange, au lieu d'être ému par la crainte, au lieu de redouter cette flamme, je m'étendis voluptueusement au milieu des langues ardentes, comme fait le phénix qui vient puiser une nouvelle vie au principe de toute vie. Alors, tout ce qu'il y avait de matériel en moi disparut. L'âme seule resta, conservant la forme du corps, mais transparente, impalpable, plus légère que l'atmosphère où nous vivons et au-dessus de laquelle elle s'éleva. Alors, comme Pythagore qui se souvenait avoir été au siège de Troie, je me souvins des 32 existences que j'avais déjà vécues. Je vis passer sous mes yeux les siècles comme une série de grands vieillards. Je me reconnus sous les différents noms que j'avais portés depuis le jour de ma première naissance jusqu'à celui de ma dernière mort, car, vous le savez, mes frères, et c'est un des points les plus positifs de notre croyance, les âmes, ces innombrables émanations de la divinité qui, à chacun de ses souffles, s'échappent de la poitrine de Dieu, les âmes remplissent l'air, elles se distribuent en une nombreuse hiérarchie, depuis les âmes sublimes jusqu'aux âmes inférieures, et l'homme qui, à l'heure de sa naissance, aspire au hasard peut-être une de ces âmes préexistantes, la rend, à l'heure de son trépas, à une carrière nouvelle, à de successives transformations. Celui qui parlait ainsi parlait avec un accent si convaincu. Ses yeux se levaient au ciel avec un regard si sublime qu'à cette période de sa pensée, résumant toute sa croyance, il fut interrompu par un murmure d'admiration. L'étonnement faisait place à l'admiration, comme la colère avait fait place à l'étonnement. « Quand je me réveillais, continua l'illuminé, je sentis que je n'étais plus un homme, je compris que j'étais presque un dieu. » Alors je résolus de vouer mon existence actuelle, mais encore toutes les existences qui me restent à vivre, au bonheur de l'humanité. Le lendemain, comme s'il eût deviné mon projet, Altotas vint à moi et me dit « Mon fils, il y a 20 ans que votre mère expira en vous donnant le jour. Depuis 20 ans, un obstacle invincible empêche votre illustre père de se révéler à vous. » Nous allons reprendre nos voyages. Votre père sera parmi ceux que nous rencontrerons. Il vous embrassera, mais vous ignorerez qu'il vous a embrassé. Ainsi, tout en moi, comme dans les élus du Seigneur, devait être mystérieux, passé, présent, avenir. Je dis adieu au mufti Salahim qui me bénit et me combla de présents, puis nous nous joignîmes à une caravane qui partait pour Suez.
Pardon, Seigneur, si je m'émeus à ce souvenir. Un jour, un homme vénérable m'embrassa, et je ne sais quel tressaillement étrange remua tout mon être quand je sentis battre son cœur. C'était le shérif de La Mecque, prince très magnifique et très illustre. Il avait vu des batailles, et d'un geste de son bras, il courbait les têtes de 3 millions d'hommes. Altotas se détourna pour ne pas s'émouvoir, pour ne point se trahir peut-être, et nous continuâmes notre chemin. Nous nous enfonçâmes en Asie, nous remontâmes le Tigre, nous visitâmes Palmyre, Damas, Spirme, Constantinople, Vienne, Berlin, Dresde, Moscou, Stockholm, Pétersbourg, New York, Buenos Aires, le Cap, Aden. Puis nous retrouvant presque au point d'où nous étions partis, nous gagnâmes l'Abyssinie, nous descendîmes le Nil, nous abordâmes à Rhodes puis à Malte. Un navire était venu au-devant d'une autre à 20 lieues en mer, et deux chevaliers de l'ordre, m'ayant salué et ayant embrassé Altotas, nous avaient conduit triomphalement au palais du grand maître Pinto. Sans doute vous allez me demander, Seigneur, comment le musulman Akarat était reçu avec tant d'honneur par ceux-là même qui jurent dans leurs vœux l'extermination des infidèles. C'est qu'Altotas, catholique et chevalier de Malte lui-même, ne m'avait jamais parlé que d'un Dieu puissant, universel, ayant, avec l'aide des anges, ses ministres, établi l'harmonie générale et ayant donné à ce tout harmonieux le bon, le grand nom de Cosmos. J'étais théosophe enfin. Mes voyages étaient achevés, mais la vue de toutes ces villes, aux noms divers, aux mœurs opposées, ne m'avait causé aucun étonnement. C'est que rien n'était nouveau pour moi sous le soleil, c'est que pendant le cours des 32 existences que j'avais déjà vécues, j'avais déjà visité la même ville. C'est que la seule chose qui me frappa, c'était les changements qui s'étaient opérés parmi les hommes qui les peuplaient. Alors je pus planer en esprit au-dessus des événements et suivre la marche de l'humanité. Je vis que tous les esprits tendaient vers le progrès, que le progrès menait à la liberté. Je vis que tous les prophètes apparus successivement avaient été suscités par le Seigneur pour soutenir la marche chancelante de l'humanité qui, partie aveugle de son berceau, fait chaque siècle un pas vers la lumière. Les siècles sont les jours des peuples. Alors je me suis dit que tant de choses sublimes ne m'avaient pas été révélées pour que je les ensevelisse en moi. Que c'est vainement que la montagne renferme ses filons d'or et que l'océan cache ses perles, car le mineur obstiné pénètre au fond de la montagne, car le plongeur descend dans les profondeurs de l'océan, et que mieux valait, au lieu de faire comme l'océan et la montagne, faire comme le soleil, c'est-à-dire secouer mes splendeurs sur le monde. Vous comprendrez donc maintenant, n'est-ce pas, que ce n'est point pour accomplir de simples rites maçonniques que je suis venu d'Orient. Je suis venu pour vous dire, frères, empruntez les ailes et les yeux de l'aigle, élevez-vous au-dessus du monde, gagnez avec moi la cime de la montagne où Satan emporta Jésus et jetez les yeux sur les royaumes de la terre. Les peuples forment une immense phalange. Nés à différentes époques et dans des conditions diverses, ils ont pris leur rang et doivent arriver, chacun à son tour, au but pour lequel ils ont été créés. Ils marchent incessamment, quoiqu'ils semblent se reposer, et s'ils reculent par hasard, ce n'est pas qu'ils vont en arrière, c'est qu'ils prennent un élan pour franchir quelque obstacle ou bien pour briser quelque difficulté. La France est l'avant-garde des nations. Mettons-lui un flambeau à la main. Ce flambeau dut-il être une torche. La flamme qui la dévorera sera un salutaire incendie puisqu'il éclairera le monde. C'est pour cela que le représentant de la France manque ici. Peut-être eût-il reculé devant sa mission. Il faut un homme qui ne recule devant rien. J'irai en France. Vous irez en France, reprit le président. Oui, c'est le poste le plus important, je le prends pour moi. C'est l'œuvre la plus périlleuse, je m'en charge. Alors vous savez ce qui se passe en France, reprit le président. L'illuminé sourit. Je le sais, car je l'ai préparé moi-même, un roi vieux, timoré, corrompu, moins vieux, moins désespéré encore que la monarchie qu'il représente, siège sur le trône de France. Quelques années à peine lui restent à vivre. Il faut que l'avenir soit convenablement disposé par nous pour le jour de sa mort.
La France est dans la clé de voûte de l'édifice, que les 6 millions de mains qui se lèvent à un signe du cercle suprême déracinent cette pierre et l'édifice monarchique s'écroulera. Et le jour où l'on saura qu'il n'y a plus de roi de France, les souverains de l'Europe, les plus insolemment assis sur leur trône, sentiront le vertige leur monter au front, et de même, ils s'élanceront dans l'abîme qu'aura creusé ce grand écroulement du trône de Saint-Louis. Pardon, très vénérable maître, interrompit le chef qui se tenait à droite du président et qu'à son accent d'un germanisme montagnard on pouvait reconnaître pour Suisse, votre intelligence a sans doute tout calculé.
Tout, répondit laconiquement le grand Koft. Et cependant, le très vénérable maître m'excusera de lui parler ainsi, mais sur la cime de nos montagnes, dans le fond de nos vallées, sur les rives de nos lacs, nous sommes habitués à parler aussi librement que parle le souffle du vent et le murmure des eaux. Seulement, je le répète, je crois le moment inopportun, car voici qu'un grand événement se prépare et auquel la monarchie française devra sa régénération. J'ai vu, moi qui ai l'honneur de vous parler, très vénérable grand maître, j'ai vu une fille de Marie-Thérèse se diriger en grande pompe vers la France pour unir le sang de 17 Césars avec celui du successeur de 61 rois. Et les peuples se réjouissaient aveuglément, comme ils font toujours lorsqu'on relâche ou qu'on dort leurs joues. Je le répète donc en mon nom, et au nom de mes frères, je crois le moment inopportun. Chacun se tourna, plein de recueillement, vers celui qui affrontait avec tant de calme et tant de hardiesse à la fois le mécontentement du grand maître. « Parle, frère, dit le grand Koft sans paraître ému, ton avis sera suivi s'il est bon. Nous autres, élus de Dieu, nous ne repoussons personne, et nous ne sacrifions point l'intérêt d'un monde au froissement de notre amour propre. » Le député de la Suisse poursuivit, au milieu d'un profond silence. « Dans mes études, j'ai réussi, très vénérable grand maître, à me convaincre d'une vérité. C'est que toujours la physionomie des hommes révèle à l'œil qui sait y lire leurs vices et leurs vertus. L'homme compose son visage, il adoucit son regard, il fait sourire ses lèvres. Tous ses mouvements musculaires sont en sa puissance, mais le type principal de son caractère reste en saillie, lisible et irréfragable témoignage de ce qui se passe dans son cœur. Ainsi, le tigre lui aussi a de charmants sourires et de caressantes œillades, mais à son front bas, à ses pommettes saillantes, à son occiput énorme, à son rectus sanglant, vous le reconnaissez, tigre. Le chien de son côté fronce le sourcil, montre ses dents et joue la rage, mais à son œil doux et franc, à sa face intelligente, à sa démarche obséquieuse, vous le reconnaissez, serviable et amical. Dieu a écrit sur les faces de chaque créature son nom et sa qualité. Eh bien moi j'ai lu sur le front de la jeune fille qui doit régner en France la fierté, le courage et la charité si tendre des filles d'Allemagne. J'ai lu sur le visage du jeune homme qui sera son époux le sang-froid calme, la mansuétude chrétienne et l'esprit minutieux de l'observateur. Or, comment un peuple, et surtout ce peuple français, qui n'a pas de mémoire pour le mal et qui n'oublie jamais le bien, puisqu'il lui a suffi de Charlemagne, de Saint-Louis et de Henri IV pour sauvegarder 20 rois lâches et cruels, comment un peuple qui espère toujours et qui ne désespère jamais n'aimerait-il pas une reine jeune, belle et bonne, un roi doux, clément et bon administrateur après l'ère désastreuse et dilapidatrice de Louis XV, après ses publiques orgies et ses sournoises vengeances, après le règne des Pompadour et des Dubarry? La France ne bénira-t-elle pas des princes qui seront le modèle des vertus que j'ai citées et qui apporteront en dot la paix européenne? Voilà que la dauphine Marie-Antoinette va traverser la frontière, l'autel et le lit nuptial s'apprêtent à Versailles. Est-ce bien le moment de commencer par la France et pour la France, votre œuvre de réformation? Pardonnez-moi encore, mais j'ai dû dire, très vénérable Seigneur, ce que je pensais au fond de l'âme et ce que je crois de mon devoir de soumettre à votre infaillible sagesse.
À ces mots, celui qui venait de parler et que l'inconnu avait désigné sous le nom de l'apôtre de Zurich s'inclina, recueillant le murmure flatteur des approbations unanimes, et attendit la réponse du grand Koft. Elle ne se fit point attendre, et celui-ci reprit aussitôt « Si vous lisez dans les physionomies, très illustre frère, dit-il, moi, je lis dans l'avenir. » Marie-Antoinette est fière, elle s'entêtera dans la lutte et périra sous nos attaques. Le dauphin Louis-Auguste est bon et clément, il faiblira dans la lutte et périra, comme sa femme et avec sa femme. Seulement, ils périront chacun par la vertu ou le défaut contraire. Ils s'estiment en ce moment, nous ne leur donnerons pas le temps de s'aimer et dans un an ils se mépriseront. D'ailleurs, pourquoi délibérer, frère, pour savoir de quel côté vient la lumière quand cette lumière m'est révélée à moi, quand je viens d'Orient, conduit comme les bergers par cette étoile qui annonce une seconde régénération? Demain, je me mets à l'œuvre, et avec votre concours, je vous demande 20 ans pour accomplir notre œuvre. 20 ans suffiront si nous marchons unis et forts vers un même but. 20 ans, murmurèrent plusieurs fantômes, c'est bien long. Le grand Koft se retourna vers ses impatients. « Oui, sans doute, dit-il, c'est bien long pour quiconque se figure qu'on tue en principe comme on tue un homme avec le couteau de Jacques Clément ou avec le canif de Damiens. Insensé. Le couteau tue l'homme, c'est vrai, mais pareil à l'acier régénérateur, il tranche un rameau pour en faire jaillir 10 autres de sa souche, et à la place du cadavre royal couché dans son tombeau, il suscite un Louis XIII, tyran stupide, un Louis XIV, despote intelligent, un Louis XV, idole arrosée de pleurs et de sang par ses adorateurs comme ces monstrueuses divinités que j'ai vues dans l'Inde écraser avec un monotone sourire les femmes et les enfants qui jettent des guirlandes sous les roues de leurs chars. Ah, vous trouvez que c'est trop de 20 ans pour effacer le nom du roi du cœur de 30 millions d'hommes qui, naguère encore, offraient à Dieu la vie de leurs enfants pour racheter celle du petit Louis XV? Ah, vous croyez que c'est une tâche facile que de rendre odieuses à la France ces fleurs de lys qui, radieuses comme les étoiles du ciel, caressantes comme les parfums de la fleur qu'elles rappellent, ont porté durant 1000 ans la lumière, la charité et la victoire dans tous les coins du monde? Essayez donc, mes frères, essayez. Ce n'est pas 20 ans que je vous donne, moi, c'est 1 siècle. Vous êtes épars, tremblants, ignorés les uns des autres. Moi seul sais tous vos noms. Moi seul estime, pour en faire un tout, vos valeurs divisées. Moi seul suis la chaîne qui vous relie dans un grand nœud fraternel. Eh bien, je vous le dis, philosophe, économiste, idéologue, je veux que dans 20 ans, ces principes que vous murmurez à voix basse au foyer de la famille, que vous écrivez, l'œil inquiet à l'ombre de vos vieilles tours, que vous confiez les uns aux autres, le poignard à la main, pour frapper du poignard le traître ou l'imprudent qui répéterait vos paroles plus haut que vous ne le dites. Je veux ces principes que vous les proclamiez tout haut dans la rue, que vous les imprimiez au grand jour, que vous les fassiez répandre dans toute l'Europe par des émissaires pacifiques, ou au bout des baïonnettes de 500 000 soldats qui se lèveront, combattant de la liberté, avec ces principes écrits sur leurs étendards. Enfin, je veux que vous, qui tremblez au nom de la Tour de Londres, vous, au nom des cachots de l'Inquisition, moi, au nom de cette Bastille que je vais affronter, je veux que nous rions de pitié en foulant du pied les ruines de ces effrayantes prisons sur lesquelles danseront vos femmes et vos enfants. Eh bien, tout cela ne peut se faire qu'après la mort, non pas du monarque, mais de la monarchie, qu'après le mépris des pouvoirs religieux, qu'après l'oubli complet de toute infériorité sociale, qu'après l'extinction enfin des castes aristocratiques et la division des biens seigneuriaux. Je demande 20 ans pour détruire un vieux monde et reconstruire un monde nouveau. 20 ans, c'est-à-dire 20 secondes de l'éternité, et vous dites que c'est trop. » Un long murmure d'admiration et d'assentiment succéda au discours du sombre prophète. Il était évident qu'il avait conquis toutes les sympathies de ces mystérieux mandataires de la pensée européenne. Le grand Koft jouit un instant de son triomphe, puis, lorsqu'il le sentit complet, il reprit « Maintenant, mes frères, voyons, maintenant que je vais attaquer le lion dans son antre,
maintenant que je vais jouer ma vie contre la liberté du monde, que ferez-vous pour le succès de la cause à laquelle nous avons voué notre vie, notre fortune et notre liberté? Que ferez-vous, dites, voilà ce que je suis venu vous demander. » Un silence effrayant, à force de solennité, succéda à ces paroles. On ne voyait dans la sombre salle que d'immobiles fantômes, absorbés dans la pensée austère qui devait ébranler 20 trônes. Les 6 chefs se détachèrent des groupes et revinrent, après quelques minutes de délibération, vers le chef suprême. Le président parla le premier. « Moi, dit-il, je représente la Suède. Au nom de la Suède, j'offre, pour défaire le trône des Wasa, les mineurs qui ont élevé le trône, plus 100 000 écus d'argent. » Le grand Koft tira ses tablettes et y inscrivit l'offre qui venait de lui être faite. Celui qui était à la gauche du président parla à son tour. « Moi, dit-il, envoyé des cercles irlandais et écossais, je ne puis rien promettre au nom de l'Angleterre que nous trouverons ardente à nous combattre, mais au nom de la pauvre Irlande, mais au nom de la pauvre Écosse, je promets une contribution de 3 000 couronnes et de 3 000 couronnes par an. » Le chef suprême écrivit cette offre à côté de l'offre précédente. « Et vous, dit-il au troisième chef ?» « Moi, répondit celui-ci, dont la vigueur et la rude activité se trahissaient sous la robe gênante de l'initié, moi, je représente l'Amérique, dont chaque pierre, chaque arbre, chaque goutte d'eau, chaque goutte de sang appartient à la révolte. Tant que nous aurons de l'or, nous le donnerons. Tant que nous aurons du sang, nous le verserons. Seulement, nous ne pouvons agir que lorsque nous serons libres. » Divisés, parqués, numérotés comme nous sommes, nous représentons une chaîne gigantesque aux anneaux séparés. Il faudrait qu'une main puissante soudât les 2 premiers chaînons, les autres se souderaient bien par eux-mêmes. C'est donc par nous qu'il faudrait commencer, très vénérable maître. Si vous voulez faire les Français libres de la royauté, faites-nous d'abord libres de la domination étrangère. « Ainsi sera-t-il fait, répondit le grand Koft, vous serez libres les premiers, et la France vous y aidera. Dieu a dit dans toutes les langues, aidez-vous les uns les autres. Attendez donc, pour vous, frères, au moins, l'attente ne sera pas longue, je vous en réponds. » Puis il se tourna vers le député de la Suisse. « Moi, dit celui-ci, je ne puis rien promettre que ma contribution personnelle. Les fils de notre République sont depuis longtemps les alliés de la monarchie française. Ils lui vendent leur sang depuis Marignan et Pavie. Ce sont de fidèles débiteurs. Ils livreront ce qu'ils ont vendu. Pour la première fois, très vénérable grand maître, j'ai honte de notre loyauté. » « Soit, répondit le grand Koft, nous vaincrons sans eux et malgré eux. À votre tour, député de l'Espagne. » « Moi, dit celui-ci, je suis pauvre, je n'ai que 3 000 frères à donner, mais ils contribueront chacun pour 1 000 réaux par an. L'Espagne est un pays paresseux, où l'homme sait dormir sur un lit de douleur pourvu qu'il dorme. « Bien, dit le Koft, et vous ?»« Moi, répondit celui auquel il s'adressait, moi je représente la Russie et les cercles polonais. » Nos frères sont des riches mécontents ou de pauvres serfs, voués à un travail sans repos et à une mort prématurée. Je ne puis rien promettre au nom des serfs, puisqu'ils ne possèdent rien, pas même la vie. Mais je promets pour les 3 000 riches 20 louis par chaque tête pour chaque année. Les autres députés vinrent à leur tour, chacun représentait soit un petit royaume, soit une grande principauté, soit un pauvre état. Chacun fit inscrire son offre sur les tablettes du chef suprême et s'engagea par serment à tenir ce qu'il avait promis. « Maintenant, dit le grand Koft, le mot d'ordre, symbolisé par les 3 lettres auxquelles vous m'avez reconnu, déjà donné dans une partie de l'univers, va se répandre dans l'autre. Que chaque initié porte ces 3 lettres, non seulement dans son cœur, mais sur son cœur. » Car nous, souverains maîtres des loges d'Orient et d'Occident, nous ordonnons la ruine des Lys. Je te l'ordonne à toi, frère de Suède, à toi, frère d'Écosse, à toi, frère d'Amérique, à toi, frère de Suisse, à toi, frère d'Espagne, et à toi, frère de la Russie. Lilia pedibus destruae.
une acclamation puissante comme la voix de la mer mugit au fond de l'antre et s'échappa en rafales lugubres dans les gorges de la montagne. « Et maintenant, au nom du Père et du Maître, retirez-vous, dit le chef suprême, quand le murmure eut été apaisé. Regagnez avec ordre les souterrains qui aboutissent aux carrières du Mont-Tonnerre, et les uns par la rivière, les autres par le bois, le reste par la vallée, dispersez-vous avant le lever du soleil. Vous me reverrez encore une fois, et ce sera le jour de notre triomphe. Allez !» Puis il termina cette allocution par un geste maçonnique que comprirent seuls les 6 chefs principaux, de sorte qu'ils demeurèrent autour du grand cofte après que les initiés d'ordre inférieur eurent disparu. Alors le chef suprême prit le Suédois à part. « Swedenborg, lui dit-il, tu es véritablement un homme inspiré et Dieu te remercie par ma voix. Envoie l'argent en France à l'adresse que je t'indiquerai. » Le président salua humblement et s'éloigna, stupéfait de cette seconde vue qui lui avait révélé son nom au grand cofte. « Salut, brave Fairfax, continua-t-il, vous êtes le digne fils de votre aïeul. Recommandez-moi au souvenir de Washington la prochaine fois que vous lui écrirez. » Fairfax s'inclina à son tour et se retira sur les pas de Swedenborg. « Viens, Paul Jones, dit le cofte à l'Américain, viens, car tu as bien parlé. J'attendais cela de toi. Tu seras un des héros de l'Amérique. Quels et toi se tiennent prêts au premier signal ?» Et l'Américain, frissonnant comme sous le souffle d'un dieu, se retira à son tour. « À toi, l'avataire, continua l'élu, abjure les théories, car il est temps de passer à la pratique. N'étudie plus ce qu'est l'homme, mais ce que l'homme peut être. » Va, et malheur à ceux de tes frères qui se lèveront contre nous, car la colère du peuple sera rapide et dévorante comme celle de Dieu. » Le député suisse s'inclina tremblant et disparut. « Écoute-moi, Ximénez, fit ensuite le cofte, s'adressant à celui qui avait parlé au nom de l'Espagne. Tu es ailé, mais tu te défies. Ton pays dort, dis-tu, mais c'est parce qu'on ne le réveille pas. Va, la Castille est toujours la patrie du site. » Le dernier s'avança à son tour, mais il n'avait pas fait 3 pas que le cofte l'avait arrêté du geste. « Toi, si forte de Russie, tu trahiras ta cause avant un mois, mais avant un mois, tu seras mort. » L'envoyé moscovite tomba à genoux, mais le grand cofte le releva d'un geste de menace et le condamné de l'avenir sortit en chancelant. Alors, resté seul, l'homme étrange que nous avons introduit dans ce drame pour en être le principal personnage regarda autour de lui et, voyant la salle de réception vide et silencieuse, il ferma sa redingote de velours noir aux boutonnières brodées, assura son chapeau sur sa tête, poussa le ressort de la porte de bronze qui s'était refermée derrière lui, s'engagea dans les défilés de la montagne, comme si depuis longtemps ces défilés lui étaient connus. Mais arrivé à la forêt, quoiqu'il n'eût ni guide ni lumière, il la franchit comme si une main invisible le guidait. Arrivé de l'autre côté de la lisière du bois, il chercha des yeux son cheval et, ne le voyant point, il écouta. Il lui sembla entendre un hennissement lointain. Un coup de sifflet, modulé d'une certaine façon, sortit alors de la bouche du voyageur. Un instant après, on eût pu voir Gerrit accourir dans l'ombre, fidèle et obéissant comme un chien joyeux. Le voyageur s'élança légèrement sur lui, et tous deux, emportés d'une course rapide, disparurent bientôt, confondus avec la bruyère sombre qui s'étend entre Dannenfels et la cime du Mont-Tonnerre.